Non, mais c'est très bien. Nous allons garder la dynamique que nous avons mise en œuvre collectivement ce matin pour nous interroger cet après-midi sur les opérations d'aménagement. L'une des questions posées d'ailleurs à la fin de cette matinée évoquait la manière dont on pouvait justement introduire ces temporalités dans la manière très concrète de fabriquer des morceaux de ville. Et bien, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, cet après-midi, avec le même principe, le même mode opératoire que celui qui a été testé, je l'espère, avec succès ce matin, c'est-à-dire un propos introductif de cadrage qui sera réalisé par Benjamin Pradel, qui est consultant chercheur sur ces questions. Et puis ensuite, quatre réalisations présentées en détail. On prendra la direction de Bordeaux, on s'intéressera aux initiatives du Bureau Cosmique que les Rennais ici connaissent bien, et que vous pourrez peut-être d'ailleurs découvrir en participant à la visite de l'hôtel à projet Pasteur à la fin de cet après-midi. Et puis nous irons aussi, avec une approche internationale, s'intéresser à une initiative chilienne d'évolutivité, je vais y arriver, des logements, avec Anne Durand. Et on terminera ce petit panorama avec une initiative en région parisienne au Muro, qui doit d'ailleurs figurer, je crois, dans le guide pratique. J'ai cru le voir en le feuilletant rapidement tout à l'heure. Voilà. Vous dire encore que bon, nous aurons aussi une, comme ce matin, la possibilité d'échanger à l'issue de chacune de ces présentations avec vous dans la salle, qu'une pause est prévue à 16h, que ce sera le moment pour vous, l'ultime moment de prendre, si ce n'est déjà fait, les documents qui sont sur la table à l'entrée, parce que pour des raisons de logistique et d'organisation, cette table sera démontée avant la fin de l'après-midi. Donc lorsque vous quitterez les lieux à 17h, elle ne sera plus là. Donc si il vous manque des documents, vous pouvez encore en récupérer à la pause de 16h, mais pas au-delà. Voilà, c'était la petite information que je devais vous communiquer. Je vais donc inviter maintenant Benjamin Pradel, qui s'est exprimé d'ailleurs ce matin. Voilà, vous êtes juste là. Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur ces enjeux de la prise en compte des temporalités. Vous vous mettez là, par exemple, avec le micro, ça sera très bien. La temporalité dans les opérations d'aménagement, c'est à la fois un vaste sujet qui peut être décliné de différentes manières. Je crois que c'est comme ça que vous allez pouvoir nous en parler. Ça fonctionne.
Alors, j'ai une petite présentation.
Qui arrive.
Moi, j'en profite pour remercier Tempo Territorial du travail accompli sur cette dernière année et de ce point d'acmé, en fait, de présentation de cet ouvrage qui nous réunit tous aujourd'hui et de la réflexion assez prolixe que nous avons eue tous ensemble durant ces quelques séminaires de travail. Et puis, sur cette dernière ligne droite, le travail assez fondamental de Catherine pour donner naissance à ce guide pratique. Alors, il y a une télécommande, on m'a dit.
Une télécommande qui est là. Ah, je vous la porte.
Merci. Bougez pas.
Oui, vous êtes sociologue, je ne l'ai pas précisé.
Oui, sociologue urbaniste. Voilà. Après quelques années dans la recherche publique, j'essaie de créer mon métier en lien avec les questions d'aménagement. Donc, je suis chargé, en fait, aujourd'hui d'introduire la table ronde de cet après-midi sur le temps et sur l'aménagement. Et donc qui correspond grosso modo aux parties 2 et 3 de l'ouvrage et donc les 4 derniers chapitres. Alors, je vous ai mis une petite illustration qui est une illustration en Chine, en fait.
Ah, j'allais vous dire, oui, c'est vu l'état du ciel, on est dans un pays un peu pollué, là, c'est ça?
Voilà, ça, ouais. Ça. En fait, c'était pour illustrer de manière un petit peu rigolote ces questions de temps où, donc, en Chine, la planification des aménagements et des équipements, notamment routiers, arrive à se
passer.
Ah oui,
en fait, c'est une route, c'est ça, qui a épargné un bâtiment, mais qui se trouve quand même au milieu de la chaussée.
Voilà, c'est ça, avec une impossibilité pour les autorités de déloger par la force la personne qui y habite. Et donc, du coup, pour la pousser à déménager, on construit autour, et il y a plusieurs illustrations comme ça que vous pouvez retrouver sur Internet qui sont assez rigolotes. Donc c'est vraiment le temps de l'habitant et le temps du projet là, voilà, qui se chevauche,
qui se télescope
complètement. Voilà. Alors juste pour redire que en fait cette question de l'aménagement et de l'urbanisme temporel et de la ville malléable, etc., et du temps dans l'espace, est vraiment dans l'air du temps. Quelques petites illustrations. La première étant une affiche du think tank de Bouygues Immobilier qui s'appelle Demain la ville, et qui est une affiche sur une exposition à Paris sur les villes recyclables. Voilà, et résiliente sur la question de la réversité, donc la question notamment de la réversibilité dans l'aménagement. Un article aussi qui est paru il y a 2 semaines dans Libération sur 2 pages sur la question de l'urbanisme temporaire et qui faisait suite notamment à un événement au pavillon de l'Arsenal, un meet-up mis en place notamment par le bureau d'études Bureau Urbain sur la question justement de l'urbanisme temporaire et puis quelques petits ouvrages qui ont paru parmi beaucoup d'autres, Ville et territoire réversible en 2010, La ville 24 heures sur 24 de Luc Wazinski qui a été réédité aux éditions Rutmos, et puis bien sûr notre guide pratique qui sort aujourd'hui. Donc pour vous dire qu'en fait c'est quelque chose, même si beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous y travaillent depuis des années et des années, moi y compris, c'est quelque chose qui est en train de faire actualité. Donc là, avant de passer à la présentation de l'ouvrage, c'était pour rapidement se dire pourquoi en fait le temps est aujourd'hui d'actualité et pourquoi ça fait 10-15 ans qu'il arrive dans les colloques, dans les discussions, etc. Il y a un faisceau en fait de tendances qui font qu'on se pose la question en fait du temps dans l'aménagement de l'espace. C'est un peu des tartes à la crème, mais je vous en citerai 6. La première, c'est bien sûr celle qui a été citée ce matin, le développement durable et l'intégration de la notion d'incertitude, c'est-à-dire comment construire une ville et aménager des espaces sans obérer les possibilités des générations futures. L'idée étant que justement le réversible, le malléable peut permettre de ne pas trop figer dans le temps la construction de l'espace. Le deuxième, ce serait de la fonction à la prise en compte des usages. C'est un urbanisme qui se questionne sur ses modèles de développement et sur ses méthodes face à une plus grande difficulté en fait d'anticiper les conduites sociales de l'espace qui ne sont plus forcément confirmées par les pratiques habitantes, des pratiques habitantes qui sont de plus en plus différenciées dans le temps et dans l'espace. Et donc les modèles projectifs de l'urbanisme doivent intégrer aussi ce changement permanent, ou en tout cas ce changement d'activité théorisée des usages de l'espace. Le troisième, c'est aussi une question de communication et de marketing urbain. On est sur aussi des questions événementielles et la question de l'éphémère, du court terme, du malléable, des nouvelles manières de faire la ville, c'est aussi une manière pour les acteurs de la politique de la ville, de la politique dans la fabrique de la ville, de faire parler d'eux. Il y a aussi la question accrue de la démocratie participative, de l'intégration du temps de l'habitant dans le temps du projet, qui fait que la concertation et la participation deviennent des nouvelles étapes en fait du projet urbain. Et ces étapes, on peut les intégrer en fait à la chronologie du projet de différentes manières, de manière itérative, mais aussi de manière en test, en expérimentation, en coproduction. Et ça questionne aussi les manières de produire l'espace de manière anciennement linéaire, on va dire. On a aussi de nouveaux métiers de la fabrique urbaine. La question de l'expérimentation dans le projet urbain, la question de la fabrique temporelle des territoires, ce sont aussi beaucoup de jeunes professionnels, de jeunes urbanistes, architectes, sociologues, géographes, qui sortent de leur formation et qui essayent de faire autrement, et qui essayent d'expérimenter, d'innover dans un contexte métier qui n'est pas tout le temps facile à intégrer, et qui se font aussi un nom autour de ça, et qui aujourd'hui se structurent dans des entreprises, des associations, des collectifs, parfois militants, parfois très professionnalisés, sur le temps dans l'aménagement. Et ça pousse fort en ce moment. Et puis enfin, des contraintes financières et temporelles de l'action publique, où, là, on en a parlé aussi ce matin, le financement des actions publiques étant quand même, un financement politique étant de plus en plus contraint, et le temps des mandats étant de plus en plus court, il s'agit aussi de faire rapidement, mieux, plus, avec moins de moyens. Et ça intègre aussi la question du temps court dans l'aménagement. Alors c'est une pensée sur le temps, du temps dans l'espace qui s'objective de plus en plus et qui se structure, et notre séminaire aujourd'hui en est une illustration, même si beaucoup de colloques, conférences et ouvrages ont été publiés depuis la fin des années 90. Ça se structure autour de plusieurs éléments. C'est donc prendre en compte l'évolutivité des villes dans un avenir incertain, C'est aussi concevoir de nouvelles manières de déployer les projets urbains avec des chronologies qui sont moins linéaires, moins directives, allons-nous dire. C'est aussi l'idée d'adapter les services urbains au mode de vie. Là, on est plus sur la dimension des politiques temporelles. C'est aussi organiser le temps dans le fonctionnement, des espaces. Et on pourrait parler, par exemple, du zonage temporel ou de la question de prendre en compte des rues, d'organiser les usages des rues à différents moments de l'année selon différentes modalités. Par exemple, une voie automobile devenant une voie cycliste ou une voie piétonne. Et puis, c'est enfin prendre en compte, notamment, et pour un sociologue, c'est un objectif important, de prendre en compte les usages changeants des lieux pour penser les lieux et organiser les lieux selon cette polyvalence, cette multiplicité des usages. Alors, on a plein de termes qui émergent, et ça aussi, c'est une caractéristique de cette tendance. On parle de transitoire, on parle de polyvalence des espaces, de réversibilité des lieux, d'urbanisme temporaire, de mutualisation des espaces, car c'est aussi une question de temps, la mutualisation des espaces, de flexibilité, de malléabilité, mais Sandra Mallet nous a bien exposé ça ce matin. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, et le guide de Tempo a essayé notamment de structurer un peu ces questions-là. Alors, trois éléments qui illustreront ces parties du guide, que j'ai essayé de remettre un petit peu en forme. Les contributeurs sont dans la salle et donc pourront aussi en reparler. Je suis parti des formes plutôt que des usages. D'abord, le questionnement sur le temps dans l'aménagement du bâti. Alors du bâtiment, hein, très, très concrètement, et on pourrait même dire des espaces privés. Le changement de fonction du bâti n'est pas une nouveauté, hein, ça a toujours existé. On a la mutabilité du bâti par le changement des usages est quelque chose de pas nouveau, hein, ça se passe tous les jours, tout le temps et depuis des siècles. Mais se pose la question du temps long, de la reconversion du bâti aujourd'hui avec des impératifs aussi économiques et puis des impératifs de restriction finalement des espaces disponibles dans les villes. Et émerge aussi une réflexion sur les nouveaux usages du bâti, mais cette fois sur des temps courts dans la trajectoire du temps long des bâtiments. Alors, comment on pourrait théoriser ça, entre guillemets, c'est parler notamment de polyvalence séquentielle, c'est-à-dire un même bâtiment va accueillir différents usages à différents moments qui vont se succéder, ou de polyvalence simultanée, c'est-à-dire les différents usages vont être dans le même bâtiment, mais au même moment. Cette polyvalence, elle peut être activée, on va dire. La polyvalence va créer quelque part la mutabilité qui va être activée par différents dispositifs. On peut parler de la mutualisation des lieux bâtis ou de la polyfonctionnalité des lieux bâtis. On peut parler aussi de l'investissement des interstices et des intervalles, notamment avec pas mal de tendances aujourd'hui sur l'investissement des friches urbaines dans le temps long du projet. On peut parler aussi de l'organisation de la réversibilité, c'est-à-dire penser un espace qui puisse accueillir différents usages de par une réversibilité fonctionnelle à différents moments du jour, de la semaine, du mois, de l'année, voire du siècle. Allons-y gaiement. Donc la mutualisation, la réversibilité et la mutabilité, finalement, et l'investissement des interstices et des intervalles, de temps comme d'espace, va activer cette mutabilité. Mais cette mutabilité, elle est avant tout, selon moi, activée par les usages. La question du squat est une forme de mutabilité du bâti, de mutabilité illégale, qui est de plus en plus prise en compte, encadrée, suivie, accompagnée par les autorités qui voient aussi des possibilités de transformer, d'accompagner la société civile dans l'investissement de certaines bâties. Et ça, ce n'est pas nouveau, je le répète. Une mutabilité par les usages, ce serait par exemple aussi la question de la transformation du bâtiment, de l'habitat, hein, la transformation des bâtiments industriels en loft, c'est une forme de mutabilité et de reconversion dans le temps. La transformation du garage du particulier en chambre d'adolescent, c'est aussi une forme de mutabilité de l'espace bâti. Et puis la friche comme nouvel espace d'expérimentation où beaucoup de collectifs aujourd'hui sont intégrés dans du projet urbain. Et j'en prendrai juste l'exemple, par exemple, de Plateau Urbain à Paris, dont on parle beaucoup en ce moment, et l'investissement de la friche des grands voisins, qui s'appelle la friche des grands voisins, dans un projet de rénovation d'un hôpital. Mais cette question de la mutabilité, elle est aussi reprise aujourd'hui par des grands groupes immobiliers, qui voient aussi une façon de développer un nouveau modèle économique de l'immobilier et de la construction, avec des propositions, par exemple, de créer des bureaux qui se transformeraient en logements ou inversement. Beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler, et ça fait beaucoup de publicité, des tours Black Swan à Strasbourg, mais aussi la question des parkings silos, par exemple, de créer des parkings silos qui pourraient être mutables en autre chose. Vous avez par exemple l'offre Conjugo de Vinci. On voit une image burragement, voilà, où c'est de l'aménagement de bureaux qui pourrait être transformé en bâti, avec derrière de l'innovation technique et aussi un positionnement très clairement en termes de communication sur ces nouveaux sujets qui sont très à la mode. Alors tout ça, ça questionne des nouvelles compétences de l'architecture. C'est comment faire du durable en intégrant de l'éphémère, du mutable et du temporaire. Ça questionne aussi la gestion de cette mutabilité. Hein, qui c'est qui va gérer les différents usages, les différentes formes d'occupation à différents moments du bâti. Et ça questionne aussi l'organisation des acteurs. Et on pourrait dire qui paie quoi, finalement, qui est responsable de quoi et à quel moment. Et notamment, Plateau Urbain est en train de développer des manières de faire de l'appel d'offres sur du loyer accessible dans des friches urbaines qui sont prises dans des grandes politiques de projet avec des montages financiers nouveaux. La question du temps et de l'aménagement, c'est bien sûr et aussi celle des espaces publics, et notamment des espaces publics autour de la question de la prise en compte des usages, et on en a beaucoup parlé à tempo territorial. L'espace public, bien sûr, ça oblige à penser, à développer une pensée usage autant qu'une pensée fonction, avec la question, bien sûr, d'un espace public qui est toujours pris dans les politiques de la fabrique de la ville entre la cohabitation des usages et leur sélection. Ce qui demande pour une bonne cohabitation ou un bon développement des usages polyvalents des espaces publics d'appréhender le temps de ces usages à différents moments, encore une fois, du jour, de la semaine, de l'année, etc. Et non pas faire une photographie à un temps T comme il se fait beaucoup dans les études de diagnostic, de pré-diagnostic des opérations d'aménagement. Et c'est tout ce qu'on essaye de faire aussi en opérationnel, c'est d'arriver à travailler et à proposer des diagnostics d'usage qui soient aussi des diagnostics intégrant cette dimension polychronique et de chronotope des espaces publics. Donc il s'agit d'intégrer cette polychronie spatiale, c'est-à-dire ces différents temps de l'espace à travers les usages, au moins sous deux formes, prendre en compte les usages à différents moments de l'année, mais c'est aussi prendre en compte la variété des usages à différents moments, à un même moment, pardon, et notamment la question, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, des vitesses et des mobilités, puisque dans un même espace, si nous prenons en compte les piétons, il faut prendre en compte les différentes vitesses des différents piétons, leur manière de se déplacer, et on ne se déplace pas pareil si on est un enfant, un adolescent, un jeune adulte, un adulte ou une personne vieillissante avec toutes les problématiques qui vont avec. Donc c'est aussi ça le temps des usages et des espaces publics. Ayant dit ça, il faut bien sûr penser ensuite, il y a une opération d'aménagement quand même, il y a un travail sur la transformation de l'espace, et plusieurs éléments peuvent être déployés. La question du design universel des espaces publics pour la prise en compte d'un maximum d'usages et surtout d'un maximum d'usagers, hein, de catégories d'usagers, pas forcément d'usages, puisque un même usager peut avoir plusieurs usages et un même usage peut être fait par différents usagers. Donc ça complexifie très clairement les études et les diagnostics et les compréhensions des espaces. Mais nous sommes dans la métropole, nous sommes dans un questionnement de la complexité et le temps nous permet d'appréhender cette complexité. On ne peut plus faire de l'aménagement comme on le faisait avant. Se développe aussi la question de la flexibilité intégrée des espaces publics. Là, on retombe plutôt sur des fonctions avec des espaces publics qui auraient des réseaux dormants, des morphologies adaptatives qui pourraient permettre d'activer et d'accueillir différentes fonctions à différents moments de l'année. Et c'est ce qui se passe notamment sur la réfection, des, par exemple, des berges de Seine à Paris, mais aussi sur différents espaces multiples et variés, en intégrant justement cette idée de flexibilité des usages et des fonctions dans la technique, hein, vraiment la matérialité de la construction, de la pensée, de l'aménagement des espaces publics. Et puis, il y a aussi les aménagements temporaires, quelque chose que je défends depuis et que j'analyse depuis pas mal d'années, sur l'idée de prévoir des espaces publics, mais aussi justement des aménagements temporaires qui renversent les fonctions, qui changent les usages, qui transforment les lieux, leur mémoire, leur manière d'être appréhendée, etc., etc., et qui est une compétence de plus en plus intégrée dans les collectivités locales. Tout cela amène à se questionner sur une possible planification temporelle de la ville, car on n'est pas hors sol et on n'est pas non plus hors décision politique. Ce matin, j'aimais beaucoup quelqu'un qui disait qu'à un moment, il faut faire des choix. Hein, et faire des choix, c'est aussi quelque part planifier. Il faut penser aussi, se demander si ces visions de l'éphémère, du réversible, etc., ce n'est pas aussi un manque de vision, quelque part, ou un manque de projection dans le futur, un manque de vision politique, une peur de prendre des décisions par rapport à une profession politique qui se professionnalise, justement. Et ça, c'est une vraie question, je pense, qui est intéressante à aborder. Cette planification temporelle, ça peut passer par le zonage temporel, c'est-à-dire organiser et rythmer la ville selon les différents moments de l'année. Ça peut aussi prendre en compte l'idée qu'un projet peut avoir des marges d'incertitude et donc travailler sur des expérimentations et des tests. Ça prend en compte aussi le temporaire, encore une fois, comme un outil qui permettrait de préfigurer, voire d'anticiper certaines pratiques sociales et donc d'aménager en conséquence les espaces. Enfin, dernier élément de cet ouvrage, c'est le temps du projet. Aujourd'hui, on passe quand même d'un projet urbain qui est passé en démarche linéaire, qui va enchaîner diagnostic, identification des besoins, élaboration d'un scénario, réalisation et gestion, à des démarches qui sont un peu plus heuristiques, un peu plus incrémentales, itératives, avec notamment la notion de feedback. Et je me rappelle que François Hacher, notamment, décrivait déjà ça en 2001 dans son développement du concept de chrono-urbanisme. Le temps long du projet, c'est de se dire que la ville durable, ce n'est pas forcément une ville figée, mais c'est plutôt le questionnement sur une ville adaptable. Est-ce que finalement l'éphémère, le court terme, le réversible, ce n'est pas ça qui nous ferait faire une ville durable? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, à vous de répondre à cette question. Mais en tout cas, de changer un petit peu, de mettre un petit peu de mou, de flex, on va dire, dans les démarches linéaires de projet. Et ça questionne très clairement deux éléments du projet urbain. C'est d'un côté le temps du pilotage stratégique du projet, qui demande, comme ça a été répété ce matin, d'agencer les temps de multiples parties prenantes qui n'ont pas forcément les mêmes vitesses, les mêmes temporalités, que ce soit les temporalités politiques, techniques, économiques, sociales, etc., voire budgétaires, si on peut parler de temporalité budgétaire. C'est aussi agencer les différentes phases du projet. Je ne reviendrai pas là-dessus, puisque c'est ce que j'ai dit juste au-dessus. Et puis, c'est aussi arriver, et ça, c'est important, et je le remarque dans les projets, à conjuguer, en tout cas, face aux décideurs, des points durs et des points mous. C'est-à-dire arriver à dire, voilà, ça, on prend une décision, c'est fixé, c'est un point dur. Et puis, par contre, sur ça, on peut peut-être prendre un peu plus de temps pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut en faire dans le temps de 4, 5, 6, 7 ans du projet urbain. Et donc, c'est peut-être là-dessus aussi qu'il y a des choses très concrètes qui peuvent être faites, notamment, par exemple, dans les plans guides ou dans les schémas directeurs. Enfin, c'est le temps dans la réalisation du projet urbain. Travailler sur le court terme, travailler sur le temporaire, par exemple, c'est pouvoir permettre de changer le regard sur les espaces, préparer le terrain à la transformation de l'espace, mais aussi travailler sur du diagnostic par du test. C'est aussi le temps du chantier, qui est un temps de plus en plus investigué, sur du chantier ouvert, du chantier expliqué, du chantier qui va être accompagné éventuellement par des professionnels de la médiation, de la facilitation, etc. Et puis, ce sont des nouvelles étapes dans le projet urbain, avec des étapes d'expérimentation, les étapes de la concertation, des occupations temporaires ou l'étape de la coproduction des espaces. Donc tout ça nous amène à revoir quelque peu la chronologie du projet, à nous questionner. Les recettes ne sont pas encore faites. C'est toujours dur de faire du feedback, de l'incrémental, etc., y compris quand on fait des réponses sur des appels d'offres en matière d'AMO. Mais petit à petit, ça commence à avoir de l'écoute au niveau des maîtres d'œuvre. Et finalement, c'est le temps aussi comme sujet du projet. Et là, je prendrai deux exemples pour terminer. Par exemple, le projet des Jeux Olympiques de Londres et la question de la réversibilité d'usage de l'ensemble des équipements et notamment du village olympique. Il y a quelque part, c'est un sujet de projet, le temps comme sujet du projet. Ou le quartier des spectacles de Montréal, avec l'idée de créer un spectacle qui le lapsus est révélateur.
De créer le quartier devient lui-même un spectacle.
Voilà, le quartier lui-même, alors avec toutes les limites que ça. Mais en tout cas, il y a une réflexion sur le temps événementiel, très clairement, à ce niveau-là, avec un quartier qui est conçu dans sa morphologie, dans ses réseaux techniques, dans son architecture, dans sa gestion, pour gérer les différents temps sur le quartier. Voilà, donc tout ça, ça nous demande de boucler la boucle du temps, de réfléchir sur des lieux et des formes nouvelles, du bâti mutable, des friches, des espaces publics flexibles, du design universel, conjugué à du temps et des rythmes, la question de l'itération, de la pensée faible, que Yves Chalas avait théorisé en son temps, de travailler des marges d'action, de la maîtrise d'usage, d'intégrer l'incertitude, et puis aussi de repenser justement les outils et les professions de la fabrique de la ville, en travaillant sur la question des diagnostics d'usage, sur des chronotopes dont on a pu voir quelques éléments ce matin, sur de nouveaux métiers aussi dans la fabrique de la ville, que ce soit les artistes comme, allons-y gaiement, les sociologues, et puis des outils aussi de programmation, puisque il va falloir penser à la programmation des espaces une fois construits ou la programmation des espaces dans le temps de la construction. Donc tout ça demande aussi à revoir quelque part les limites et des modèles métiers et de la fabrique urbaine. Voilà. Donc maintenant, la table ronde.
Merci beaucoup, Benjamin Pradel. Vous restez avec nous. Merci pour cette introduction, effectivement, à la table ronde qui va suivre. Vous avez bien balisé le terrain en identifiant les différentes facettes. Hein, et Dieu sait si elles sont plurielles, hein, ces approches de la ville temporaire, y compris, et vous l'avez bien souligné, dans l'usage des mots que l'on emploie pour en parler. Il y a une espèce de... Je l'ai déjà utilisé ce terme-là ce matin, mais ça se vérifie encore avec vous cet après-midi, de polysémie. Hein, on utilise de très nombreux termes pour qualifier cette approche. Alors, est-ce que, en creux, et j'aimais bien la remarque que vous faisiez sur le fait qu'il y avait peut-être une peur de se projeter ou une absence de projet politique, en disant faisons du temporaire parce que le définitif, on n'en a pas les moyens. Quoi. C'est presque ça. Il y a une contradiction là, intrinsèque qui pourrait peut-être être intéressante de prolonger.
Oui, je pense qu'on agit par les mots, on pense par les mots et l'émergence de l'ensemble de ces termes depuis 10-15 ans qui ont été beaucoup poussés quand même et beaucoup mis en avant avant même qu'on passe à la réflexion opérationnelle par des universitaires, beaucoup d'universitaires qui ont travaillé sur le sujet. Je pense à Thierry Paco, mais je pense aussi à François Hacher qui avait travaillé en son temps, à Francis Godard aussi qui avait travaillé sur les temps de la ville et les modes de vie. Donc c'est sûr que ça pose beaucoup de questions parce qu'on est sur on est sur une réflexion de l'espace mais qui, prenant en compte le temps, intègre de toute façon et directement et frontalement la question du social, des rythmes de vie et des modes de vie,
des usages
par rapport à la vision politique, on a une vraie question de est-ce qu'on fait avec ce qui est, avec ce qu'il y avait ou avec ce qu'il y aura. Et donc, du coup, ça demande aussi une vraie définition, quelque part, de là où on veut aller, dans quel monde on veut vivre demain, avec peut-être, de plus en plus... on va pas partir sur la philosophie, mais on est quand même...
Elle est jamais très loin. Hein. Depuis ce matin, on voit bien que ces questions-là, elles impactent notre questionnement. Et,
oui.
Et c'est pas un gros mot, finalement, de dire qu'on réfléchit
d'aucun
de cette manière-là.
On parle notamment de la faillite des grands récits. La faillite des grands récits qui structurait notre monde jusqu'à, on va dire, au milieu du XXe siècle. Cette faillite des grands récits se transformant en un éclatement de micro-récits et donc questionnant notre possibilité à décrire et à programmer une vision pour une société élargie face à une multiplication des micro-récits. Et donc la question du politique et du temps, c'est aussi notre capacité à créer un grand récit où les gens pourront éventuellement s'identifier. Et c'est de plus en plus compliqué, et on le voit tous les jours avec ce qu'on appelle la réelle politique ou la réduction du temps des mandats, etc.
Voilà. Alors, des micro-récits, on va essayer d'en découvrir au moins quatre cet après-midi pour illustrer justement la démarche que vous venez de présenter. Je vais demander à Emeline Dumoulin de Bordeaux Métropole de venir à nos côtés. Adrien Jacquet du Bureau Cosmique doit également être parmi nous. Merci de prendre place. J'appelle aussi Anne Durand, qui est architecte urbaniste, qui est là. Et je n'oublie pas Elona Christo, qui doit être là aussi. Voilà, ça y est, vous êtes tous là. Merci de vous installer. On va peut-être commencer. Alors, l'idée, hein, c'est le même principe que ce matin. On va demander à chacun d'entre vous de pouvoir nous éclairer en une dizaine de minutes sur le sujet que vous avez choisi de partager avec nous cet après-midi. Et puis, à l'issue de chacun d'entre eux, on engagera l'échange et le débat avec vous dans la salle, aussi avec vous sur le plateau. Ça peut être intéressant que les uns et les autres, on ne l'a pas beaucoup fait ce matin, et c'est peut-être dommage d'ailleurs. N'hésitez pas non plus à commenter ou à interagir avec vos voisins. Ça peut être tout à fait,